Alors pourquoi faire une présentation sur l'art dans une perspective pastorale? C'est parce que le plus souvent, les gens qui souffrent ne font pas grand-chose de leurs dix doigts. Ils ne savent pas créer une SCI à but social, ils ne savent pas faire du patchwork ou bien se faire des bons petits plats. Hein, les gens qui souffrent en général s'ennuient et il faut bien réfléchir à comment proposer aux gens qui souffrent une sorte de comportementalisme, de leur permettre de discerner un peu leurs qualités, leurs aspirations et rentrer dans une démarche artistique ou en tout cas artisane. Et on va voir qu'est-ce que l'art peut être d'un point de vue chrétien. Ça marche. On va donc définir, essayer en tout cas de rentrer dans une définition de l'art. L'art, on pourrait dire que c'est l'expression de la sensibilité. Un artiste, hein, il aime quand il chante, hein, il exprime quelque chose, quand il peint, quand il sculpte, quand il fait un jardin paysager, quand il habille, hein, etc. Il exprime sa sensibilité. Un artiste, il exprime aussi un idéal de beauté. Et c'est un idéal, puisqu'en fait, on voit avec... Il y a des artistes comme, je ne sais pas si vous connaissez Francis Bacon. Voilà, c'est... Ça ne plaît pas à tout le monde, quoi. Hein, voilà. Hein. Et... Donc, y a une sensibilité qui s'exprime, il y a une sorte de beauté qui en découle, il y a donc un travail d'expression. On pourrait dire que être artiste, c'est exprimer quelque chose, et exprimer, c'est communiquer, et quand on communique, on y est, on a une relation avec les autres, et vous voyez comment je voudrais vous suggérer que le souffrant devrait vraiment rentrer dans cette perspective-là. L'expression, c'est, j'ai mis la marque du Dieu artiste. Quand on voit dans la nature, comment dire, la différence entre un platane et un chêne, c'est fantastique. Il y a une variété, il y a une richesse, il y a une expression. On pourrait passer notre temps dans la nature à regarder et à connaître Dieu, le Dieu qui s'exprime. Et alors, à partir de cette réflexion, je voudrais vous sensibiliser à différentes choses. La première, c'est, par exemple, est-ce qu'on a eu raison de passer autant de temps à construire des cathédrales, des églises? Hein, hier, par exemple, j'emmenais Lucie, je crois, le matin, avec des lumières fantastiques, et je descends, je ne sais pas d'où, dans quelle rue, hein, et je vois la cathédrale Saint-Sauveur avec son clocher très un peu massif mais découpé et très très joli. Je me dis waouh. Et mais quand on sait le prix que ça a coûté, le temps qu'il a fallu passer, hein, une abbaye cistercienne, il fallait 200 ans pour la construire, et encore Sénan qui a été commencé vers 1200 et fini en 1900 et quelques. Donc Et on peut se demander raisonnablement, en tant que chrétien, aujourd'hui, est-ce qu'on aurait raison de commencer à construire une cathédrale? Tellement ça coûte cher et tellement c'est invraisemblable. Mais d'un autre côté, quand on les a, on est content aussi de les avoir. Hein? Et donc, une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'Église doit finalement se retrouver dans une maison entre quatre murs sans chauffage de qualité et en n'ayant pas d'eau pour faire un café? Ou au contraire, est-ce qu'il faut exprimer quelque chose qui corresponde à nos besoins, à notre vie, à notre mode de vie? Autrement dit, l'expression doit résulter d'une réflexion profonde et finalement, pratiquement, de qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Dans, encore une fois, chez le souffrant, il y a... tout est un peu bloqué quelque part. Hein, si le souffrant savait vraiment qui il est, qu'est-ce qu'il a envie de mettre en œuvre, il y serait déjà, en fait. Quitte à chanter mal, ne vaudrait-il pas mieux dire les paroles, hein, que dans certaines églises, hein, alors c'est sûr que là où il y a un très bel orgue, hein, Saint-Jean de Malte, et quand il y a mettons un chant à une seule voix, on ne peut pas dire qu'on chante mal, hein, on exprime quelque chose. Mais dans d'autres églises, on va chanter sans instrument à quatre voix, alors quand c'est mal chanté, c'est assez affligeant. Donc, qu'est-ce que, là aussi, on pourrait se dire que si on veut faire quelque chose, il faut le faire bien. Mais si on ne le fait pas bien, est-ce qu'il ne faut pas le faire, etc. C'est un peu complexe, hein, c'est compliqué de répondre à ça. Je propose aussi cette réflexion, s'habiller comme un ermite coûterait moins cher, finalement, de même que manger le strict minimum. On n'aurait pas de problème de poids, d'obésité, de maladies diverses, là, suite au problème de malnutrition, de surnutrition. Hein, donc, finalement, voilà. Pourquoi s'occuper du visible n'est-il pas destiné à disparaître? Alors là, qu'est-ce qu'on répond? Est-ce qu'il est destiné à disparaître, le visible? Non. Hein, et je vis de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Hein, Apocalypse 21, verset 1. Nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres dans lesquelles la justice habite. 2 Pierre 3, verset 13. Donc le visible n'est pas appelé à disparaître. Et donc il y a peut-être dans l'histoire du christianisme une difficulté avec le visible qui fait que globalement dans l'Église, on peut être dans ce paradoxe, d'un côté, de dire le visible ne sert pas à grand-chose, et le visible, c'est-à-dire finalement la nourriture, l'habit et le logement, et l'expression. Et de l'autre côté, avoir des choses magnifiques. Hein, à Aix, il n'y a pas de plus belle église que Saint-Jean de Malte, là où à Pierre. Et donc... s'occuper du visible, c'est important. Et je dirais que nous avons à nous en occuper. Et on va voir comment est-ce qu'on peut s'en occuper. Je vous propose donc de lire que l'art sollicite l'émotion, mais on entend dans la Bible que Dieu a condamné l'image. Hein, tu ne te feras pas d'image taillée. On se dit, mais pourquoi? Et donc, on est un peu dans des porte-à-faux dans lesquels on risque d'être coincé si on ne définit pas les choses. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire en disant « Tu ne te feras pas d'image taillée ». D'image taillée de quoi? Eh bien, de Dieu. Autrement dit, Dieu n'a pas voulu qu'on le voie. Alors, je vous fais quelques suggestions. Que veut dire en Éden, hein, que Dieu se promenait au frais du jour et qu'il dit à Adam, où es-tu? Si Dieu était esprit, il serait tout de suite près d'Adam. Hein, s'il appelle Adam, c'est que Dieu, me semble-t-il, se rendait visible en Adam, avec Adam. Et quand l'homme est chassé d'Éden avec l'ange qui garde l'accès à Éden, avec son épée, alors il me semble que dans un sens, l'homme est chassé de la présence de Dieu de manière visible. Et Dieu lui dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Hein? L'homme est créé à l'image de Dieu, mais Dieu étant, à mon sens, une théophanie, c'est-à-dire une apparition, mais qui n'est pas encore la visibilité de Dieu, puisque la visibilité de Dieu est venue en Jésus-Christ. Parce que Dieu s'est manifesté en chair, et on peut dire que l'homme Jésus-Christ est Dieu qui s'est manifesté en chair, alors que Dieu qui était en Adam, qui était avec Adam, pas en Adam, en Éden, je voulais dire, c'est Dieu qui s'est rendu visible. Et le « tu ne te feras pas d'image taillée ou de visibilité », c'est parce qu'en fait, je ne veux pas me montrer à toi, je me montrerai à toi dans un sens quand le moment sera venu. Alors, Dieu n'a pas condamné l'image. Dieu n'a pas condamné la représentation. Dieu ne veut pas se montrer pendant un temps. Et c'est vrai que nous, quand on verra Jésus-Christ, ça fera quand même bizarre. Qu'est-ce qu'on lui dira? Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on ressentira? On va regarder par terre? On va lui parler? Si on lui parle, qu'est-ce qu'on va lui dire? Hein, la représentation de Dieu est une représentation, qui risque de figer quelque chose là où il n'est pas. Par contre, quand Dieu se révélera complètement à nous, peut-être que Dieu révélera au contraire tout un ensemble de choses qui relèvent de l'art, c'est-à-dire à la fois de l'art en tant qu'artiste et de l'art en tant qu'artisan, hein, les deux choses étant liées. Est-ce qu'il y aura de l'art dans l'éternité? Pour moi, bien sûr que oui, puisque l'art, c'est finalement c'est le fond de ce que Dieu est et fait, avec bien sûr l'amour et la vérité. L'art, c'est l'expression de ce qu'il est. Et on va essayer de le comprendre. Alors mes sources, c'est souvent Wikipédia. Hein, c'est commode, on fait un copier-coller, mais ce ne sont pas forcément des sources très sûres, parce qu'en fait c'est une encyclopédie ouverte. Mais les encyclopédies qui ne sont pas ouvertes, elles sont aussi arbitraires que les autres finalement. Hein, voilà. Alors, Wikipédia dit que l'art est une catégorie culturelle dont la portée varie largement selon les temps et les lieux. C'est bien parce qu'au moins, personne ne peut être contre ce genre de définition. Hein, voilà. Et donc, dans l'usage courant, l'art englobe principalement les produits de ce qu'on appelait les beaux-arts, peinture, musique, poésie, danse, etc. La conception de l'art comme production d'objets, qu'on s'accorde à trouver beau, ou du moins stimulant pour les sens, remonte tout au plus au XVIIIe siècle. Autrement dit, avant, l'art, c'est l'art de l'artisan. Hein, c'est le travail. Et après, ça devient la beauté et le luxe. C'est déjà intéressant d'entendre ça. C'est pas forcément très vrai. C'est un peu comme ce que j'ai dit sur le sexe. C'est-à-dire que le dictionnaire très très sérieux des presses universitaires de France dit qu'au Moyen-Âge, le sexe est vraiment une vraie catastrophe. Alors qu'avec Thomas d'Aquin, ça paraît pas être le cas. Donc, ça dépend un peu des sources. Hein. De nos jours, il n'y a pas une idée de l'art qui soit universellement acceptée. Les produits et pratiques qui relèvent de l'art sont circonscrits selon les intérêts poursuivis par les individus et les institutions, en tenant compte d'une façon ou d'une autre des désignations antérieures. Autrement dit, c'est un petit peu compliqué, mais on ne peut pas dire que l'art, ça soit ceci ou cela. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez large et qui dépend des intérêts des individus ou des institutions. Et puis, l'esthétique qui s'est développée au XVIIIe siècle comme une théorie de l'art, de nos jours, est perçue comme une construction accessoire. Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a pas que l'esthétique dans l'art, il y a aussi d'autres formes de l'expression, et ce qui est moche est une forme d'art, dans un sens, ou ce qui est... voilà. Alors, on continue un peu avec Wikipédia, qui dit le mot « art » qu'on emploie en français, ça c'est l'étymologie, dans la plupart des langues romanes, et aussi en anglais, vient du latin « ars », qui signifiait « habileté, métier, connaissance ». Autrement dit, je voudrais vous sensibiliser au fait que le souffrant, il faut que nous l'introduisions dans une démarche d'habileté. Hein, dans une démarche, dans laquelle il va vivre son utilité. Hein, vous vous souvenez que d'un côté, on a envie d'être en sécurité dans l'amour de Dieu, d'avoir sa propre valeur. Hein, on se sent apprécié de Dieu, on y est. On est heureux parce qu'en fait, on est debout devant Dieu et on sait que le regard de Dieu sur nous donne notre valeur. Mais de l'autre côté, donc ça c'est la colonne de gauche, hein, je le fais pour vous, hein, dans le tableau des émotions. Hein, tout ce qui touche à l'appréciation. Et donc on a l'appréciation des personnes qui donnent l'amour, l'appréciation des actions qui donnent le plaisir, l'appréciation des circonstances qui donnent la joie. Hein, donc, on est dans le tableau, Jean-Paul, pas celui-là, hein, le tableau carré où il y a les... Mais je ne sais pas si vous avez ça, on a dû en parler. Si, on a dans le PowerPoint sur les émotions. Hein, voilà. Et donc, mettons que j'ai besoin, moi, en fait, de m'apprécier, colonne de gauche, des émotions, pour faire quelque chose. Mais j'ai besoin aussi de faire quelque chose pour être utile, colonne de droite, justice ou vérité. C'est-à-dire d'être en paix avec moi, d'être satisfait et d'être serein. Dans la mesure où je suis dans l'utilité, alors ça marche. Et l'art est un peu au centre de tout ça. Parce que je suis appelé à faire en tant qu'artisan, hein, à ressentir en tant qu'artiste et à exprimer ce que je suis. Autrement dit, je m'apprécie, je fais quelque chose que j'apprécie. Hein, et je suis à la fois dans l'appréciation de moi, l'amour, hein, et l'estime de soi dans un sens, mais aussi l'utilité, parce que je fais quelque chose, et donc aussi l'estime de soi. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que le mot « art » provient de quelque chose qui relève de l'action, hein, de l'artisanat, hein, habileté, métier, connaissance. Hein, le mot, l'équivalent allemand, Kunst, vient aussi de connaître, et dans les langues slaves, Iskutsvo dénote aussi l'habileté technique. Bon. De nos jours, tous ces termes recouvrent principalement ce qu'on avait appelé les beaux-arts, et en fait, tous admettent une qualification semblable quand il s'agit de préciser leur sens en limitant certaines connotations historiques. Donc, cette qualification art est admise par tous, globalement, hein, ça ne marche pas toujours, mais finalement, de nos jours, l'art, c'est les beaux-arts, c'est le côté plutôt esthétique, culturel, artistique, etc. Et beaucoup moins la question d'habileté, métier et connaissance. En termes grecs, en grec, le terme techné a eu de même une signification d'habileté, mais il a évolué vers la signification contemporaine de technicité. Alors, la Bible dans tout ça. Eh bien, la Bible va nous montrer certains mots. Donc là, on a à la fois de l'hébreu et du grec. Hein, Chashav, en hébreu, penser, projeter, estimer, calculer, inventer, porter un jugement, imaginer, compter. Tu les feras avec des chérubins, ouvrage d'art. Ouvrage d'art. Et voilà comment, donc, Exode 26, Moïse, hein, on est environ en 1450 avant Jésus-Christ. On sait que l'art, c'est-à-dire l'artisanat, et la manière artiste de faire un artisanat. Et bien là, hein, des chérubins d'ouvrage d'art, les chérubins sont ces anges. Et donc on voit ici que l'ouvrage d'art, c'est quelque chose de complexe. Hein, penser, projeter, estimer. Hein, le chant, hein, donc dans 1 Chronique 25, verset 7, hein, l'amad, le chant est une forme d'expression. Et il y a une instruction, instruit dans le chant. Hein? Alors voilà, l'art du parfumeur, une œuvre dans 2 Chroniques 16, 14, une œuvre sculptée de l'art et de l'imagination de l'homme, en Actes 17, 29, dans ce discours de Paul à Athènes. Hein? Et là, donc, une œuvre sculptée de l'art, c'est techné. Techné qui a donné donc technique. On trouve ce mot dont Wikipédia a parlé. Alors, la Bible parle aussi d'artistes. Hein, Jubal, en Genèse 4, 21, a été le père de ceux qui manient la harpe et la flûte. Autrement dit, l'art vient très, très rapidement. Betsaléel, dans Exode 35, 31, est celui qui s'est chargé essentiellement de tous les éléments constitutifs du tabernacle, et il était rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse, en intelligence, en connaissance, pour toute espèce d'ouvrage. On voit comment cette démarche artistique, à la fois d'action et de beauté, ou d'expression, finalement concerne, ou plutôt doit être motivée ou dirigée par la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Autrement dit, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il y a des thérapies comportementalistes, dont, par exemple, l'art-thérapie. Hein, on va faire de la thérapie par le chant, de la thérapie par l'instrument, de la thérapie par la danse, etc. Hein, et donc, c'est bien dans cette perspective-là que je voudrais vous poser, comprendre que quand Betsaleel a obéi à Dieu et a commencé à prendre de l'acacia, hein, ce bois de sittim, et le recouvrir d'or après l'avoir sculpté, collé, chevillé peut-être, hein, en fait, il a une forme d'expression dans laquelle il exprime ce que Dieu lui demande. C'est de l'artisanat, mais c'est aussi de l'art, dans le sens, justement, après le XVIIIe siècle, c'est une expression artistique, les beaux-arts. Et donc, toute notre démarche devrait être analogue. Et on pourrait avoir simplement une forme de pratique pastorale en faisant préciser au souffrant ce que Dieu lui demande de faire, en discernant ses qualités, en lui faisant parler un peu de sa vie et en l'aidant à mettre en œuvre strictement ce qu'il est appelé à faire parce qu'il sait le faire ou parce qu'il a des qualités pour le faire. Autrement dit, ce souffrant faisant ce que Dieu lui demande, il sera dans quelque chose duquel il sera satisfait, dans lequel il aura du plaisir, il s'y retrouvera personnellement, il exprimera ce qu'il est, il communiquera, il y a tout là-dedans. On continue un peu dans notre réflexion. Donc à Betsaleel et à Oholiab, dans Exode 35, il a mis au cœur d'enseigner. Et donc là, il y a la forme artistique dans la façon et dans la beauté, et il y a également la transmission du savoir, un enseignement avec Betsaleel et Oholiab. On a vu avec David, quand on a fait l'appel et les qualifications, hein, que David s'était préparé pour répondre à Dieu. 1 Samuel 16-18, donc un homme qui s'est joué de la harpe, fort et vaillant, un homme de guerre qui a l'intelligence des choses, l'Éternel est avec lui. On voit que David établit des chantres, c'est-à-dire des chefs de chœur, et que non seulement il établit des chantres, mais les chantres ont des responsabilités. Ce n'est pas étonnant si dans les psaumes, il y a plusieurs auteurs, mais il y a trois familles de chantres, selon les trois enfants des Lévites, hein, les Mérarites, les Kéhatites et les Gershonites. Et il y a trois familles de chantres qui correspondent à ces trois familles. Les fils de Corée, c'est les fils de Kéhat. Hein, Corée, et les fils de Corée ont écrit 12 psaumes. Ensuite, les fils il y a donc les Mérarites et les Gershonites. Et il y a Asaph, qui est soit Mérarite, soit Gershonite, je ne m'en souviens plus, qui lui aussi a écrit 12 psaumes. Et puis, il y a, après, la troisième catégorie avec Étan, qui est donc soit un Mérarite, soit un Gershonite, je ne me souviens plus, et lui n'a écrit qu'un psaume. Et c'est intéressant de voir comme David a constitué pour le peuple d'Israël des gens qui, certainement, étaient non seulement doués pour le chant, mais instruits dans le chant et capables d'entraîner, de conduire une chorale, et de poser des choses. Après, pourquoi est-ce que Étan a écrit comme psaume, le psaume, je crois, 89, hein, on peut se le demander. Hein, on se dit, tiens, il y avait les trois familles de Lévites, il y avait donc des gens qui étaient placés par le roi avec une charge, et puis dans le recueil des psaumes, dans les 150 psaumes, alors la troisième famille, hein, finalement, ne donne lieu qu'à un psaume, et je vais vous dire, Étan, donc, Il était de la famille, comme ça on le saura, ça sera dit, donc 89, il est là, il est de Merari. Hein, voilà, donc Asaph, il est Gershonite. Alors, tout ça pour dire que Dieu appelle certainement à des choses complètes. Je pense que ces trois, dans ces trois familles de chantres, il y a des sensibilités très différentes. Les fils de Corée, c'est des gens qui ont souffert. Vous savez, Corée, hein, en nombre 16, hein, ces gens qui ont été, finalement, qui ont été enterrés vivants, hein, dans cette fracture dans la terre, à la suite de leur révolte contre Moïse et Aaron. Asaph, au contraire, donc Gershonite, je le trouve très... quelqu'un d'assez fort, qui va dire l'Éternel est fort, etc. Voilà. Et puis étant, voilà, avec son psaume, hein, et une particularité dont je ne me souviens pas bien, je pense que Dieu appelle à quelque chose d'assez complet. Autrement dit, là aussi, nous, dans l'accueil qu'on préfère aux souffrants, sur la fenêtre de l'art, on pourrait l'appeler vraiment à donner tout ce qu'il a, à dénombrer un peu toutes ses qualités, à prendre du temps avec tout ça. Alors, en Ézéchiel 28, on a quelque chose d'intéressant, je trouve, c'est qu'à l'égard du roi de Tyr, qui, à mon avis, symbolise Satan, il est dit, hein, il est dit en Ézéchiel 28, 13, mais un peu avant, « Tu étais ce chérubin, donc cet ange, oint, c'est-à-dire choisi. Hein, » Et il est dit, « Toutes les pierres précieuses te couvraient, le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi au jour où tu fus créé. » Donc en fait, le chérubin, c'est l'ange, et l'ange qui garde, hein, l'ange est... au jour où il a été créé, il y avait un riche travail de tambourin et de flûte. Autrement dit, c'est Dieu qui a créé la musique. C'est Dieu qui a créé les percussions, hein, les tambourins. Hein, voilà. Autrement dit, Dieu est cet artiste qui nous demande d'abonder en fait dans ce qu'il est. Jésus, alors quand il change l'eau en vin, eh bien, le maître de cérémonie lui dit... Tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Autrement dit, Jésus, hein, voilà, il y a certainement quelque chose qu'il nous faut remarquer. Jésus devait avoir du goût. Hein, voilà, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alors le problème dans les mariages, c'est qu'on garde on met le mauvais vin à la fin parce que les gens, hein, sont bourrés, donc voilà, ils peuvent pas l'apprécier. Hein. Mais pas dans nos mariages, bien sûr. Hein. Pas de ça chez nous. Hein. Voilà. Marie donc, ayant pris... Donc là, c'est Marie de Béthanie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix. Hein, le brise exhale son odeur. Donc, voilà. Voilà encore quelque chose qui relève de l'art. Matthieu et les discours. Alors... il y a donc trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qui sont construits de manière synoptique, avec la même vue. On peut penser donc que saint Irénée, hein, dans son livre Contre les hérésies, qu'il écrit vers 180 après Jésus-Christ, saint Irénée était donc le disciple de Polycarpe, évêque de Smyrne, qui était le disciple de Jean. Et donc, il y a une transmission, il y a mettons que Jean et Polycarpe étaient les coachs. Il y a une transmission apostolique qui se fait de manière très, très carrée. Hein, Jean, Polycarpe et saint Irénée. Et donc, saint Irénée écrit dans un vrai pavé, hein, contre les hérésies, j'en ai imprimé 250 pages A4. C'est très, très long, hein, à lire. Et il écrit que Matthieu a commencé à écrire les évangiles aux Juifs dans leur langue. Et puis après, il dit que Marc, qui était le secrétaire de Pierre, et Luc, qui était le secrétaire de Paul, ont écrit l'évangile, et puis Jean, bien après. Et donc, Matthieu, Marc et Luc, à mon sens, donc, écrivent entre 50 et 70, hein, les évangiles. Et puis Jean l'écrit bien après, vers 95. Et donc, chacun a son point de vue artistique. De l'ordre de l'artisanat, comme de l'ordre de l'expression, comme de l'ordre de la beauté. Par exemple, Matthieu construit son évangile, c'est-à-dire sa bonne nouvelle. Mais sa bonne nouvelle de quoi ? Du royaume. Hein, c'est l'évangile du royaume. Donc Matthieu, hein, Jésus prêche l'évangile du royaume, Matthieu 4, 24, Matthieu 9, 35, et il dit que l'évangile du royaume sera prêché en Matthieu 24, 14. Et donc, Matthieu le construit sa bonne nouvelle sur cinq discours. Cinq discours. Pentateuque, cinq livres. La liturgie annuelle, cinq rouleaux. Hein, voilà, il y a certainement une volonté artistique, en fait, dans la tradition juive, sur la base du nombre 5. 5, il y a, en général, l'introduction, la conclusion, et puis, ce qui est le plus important dans 5, 5 doigts, ce qui est le plus important, c'est le majeur, c'est celui qui est au milieu. Curieux, hein ? C'est pas par hasard, sûrement. Il y a quelque chose dans 5. Et quand vous lisez quelque chose qui a une structure de 5, alors il faut garder ce qu'il y a au milieu, pas ce qui est en premier ou en dernier. Autrement dit, dans les cinq discours de Matthieu, son discours le plus central, c'est certainement le troisième. C'est, donc il y a le sermon sur la montagne, premier, Matthieu 5 à 7. Le deuxième, c'est l'envoi des disciples pour l'évangile du royaume, Matthieu 10. Le troisième, le central, c'est Matthieu 13, c'est la structure du royaume. Hein, c'est les sept paraboles sur le royaume. Et puis après, Matthieu 18, c'est les caractères moraux du royaume. Et Matthieu 24 et 25, c'est le roi s'en va parce qu'il va être rejeté, mais il va revenir pour régner. Et donc, il y a une forme artistique là.
Est-ce que tu as une fiche
là-dessus ? Il y a une forme artistique. Il y a quelque chose dans l'intention de l'Esprit de Dieu, il nous dit, mais voilà quelque chose de structuré, c'est bien. Mais si on regarde l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, non seulement le plan n'est pas évident. Hein, dans l'évangile de Marc, dans les 8 premiers chapitres, on est dans le travail en Galilée, et ensuite, à partir du chapitre 9, Jésus va vers Jérusalem. Hein, donc il y a, dans l'évangile de Marc, ce sont les actes du Seigneur Jésus, hein, il y a 49 fois le mot « aussitôt », hein, on est vraiment dans l'action, mais dans l'évangile de Luc, non seulement c'est très très confus, diffus, mais en plus de ça, la chronologie n'est même pas respectée, hein, par rapport aux autres évangiles. Mais c'est aussi une forme artistique. Hein, on pourrait dire qu'il y a une volonté peut-être de faire réfléchir, de déstructurer pour qu'on soit interpellé et pour qu'on réfléchisse. Alors, vous voyez qu'on pourrait dire avec cette réflexion sur les trois évangiles, on pourrait dire que nous, on serait peut-être tenté d'apprécier plutôt Matthieu parce qu'au moins on comprend, c'est facile à comprendre. Plutôt Marc parce qu'au moins on fait, ou plutôt Luc parce qu'au moins on est tranquille, on n'a pas réfléchi. Ou parce qu'au contraire, on est touché par ceci ou cela, mais un petit peu comme l'impressionnisme, vous voyez ? Ou de près, on va dire, mais il n'est pas beau ce tableau, dès qu'on se recule un petit peu, waouh, ça interpelle. Donc je crois qu'il faut vraiment être, affirmer qu'il y a différentes manifestations ou expressions artistiques, et que quand on entend un prédicateur, alors si nous on est dans la tendance de Matthieu, tous ceux qui seront bien carrés, on les appréciera. Mais tous ceux qui seront comme Luc, alors ils vont nous fatiguer. Hein, voilà. Et peut-être que le souffrant, en fait, lui, il vient avec sa forme personnelle. Et nous, quand on l'écoute, comment est-ce qu'on fait ? Si on veut imposer au souffrant, en fait, notre manière de vivre, alors ça ne marchera pas. Si au contraire, on est vraiment en accueil, aujourd'hui, par exemple, dans cette semaine, moi, je vous impose ma manière de penser, puisqu'en fait, on a un ensemble de choses que je vous propose en réflexion. Mais par contre, dans l'entretien en fait, que j'ai avec vous, je ne vous l'impose pas du tout. C'est là où il y a quelque chose de radicalement différent. Hein, quand on est en entretien, on parle de cœur à cœur. Et là, il n'y a plus de technique. Il y a vraiment une relation dans laquelle il faut que nous discernions la forme, entre guillemets, artistique, c'est-à-dire à la fois artisane ou artisanale, et artiste du souffrant. Alors, ça va trop vite, voilà. L'artisanat dans la Bible. Notons que Dieu manifeste de manière tout à fait extraordinaire. Hein? Quand, par exemple, David va dire à Nathan que l'Éternel habite sous les tentes, hein, dans, je crois, 1 Samuel 7, il exagère un peu. C'est-à-dire, l'Éternel n'habite pas sous les tentes. D'abord, des tentes, il y en a 11. Hein. Elles sont toutes de couleurs différentes, pratiquement. Ou en tout cas, il y a des couleurs différentes. Les tentures intérieures sont brodées d'or avec un ouvrage de fin coton, avec des anges en relief, etc. Il y a de l'or de partout. Il y a, on dit que le voile entre le lieu saint et le lieu très saint a l'épaisseur d'une main. Hein, c'est dire que, d'accord, l'Éternel habite sous les tentes, mais en fait, c'est quand même le grand luxe. Moi, j'aimerais bien habiter sous les tentes comme ça. Hein? Et le tabernacle, l'encens, hein, l'encens est un ouvrage de parfumeur, fragonard. Hein? L'encens, c'est quelque chose d'abord de très coûteux. Hein? Et avec cette... comment dire, cette faculté d'avoir cette fumée blanche, épaisse, un peu comme une forme de visibilité de la gloire de Dieu, hein, l'encens. Donc, il y a de l'artisanat et de l'art dans la manifestation de Dieu. La création, hein, j'aurais peut-être dû le mettre avant d'ailleurs, les cieux racontent la gloire de Dieu. Hein, la création, le tabernacle, la beauté. Dans le psaume 45, qui est un psaume messianique où il est question du mariage et certainement de l'union de Dieu avec son peuple ou du Seigneur avec son Église, eh bien, à propos de l'Église, il est dit « Le roi désirera ta beauté ». À propos de Moïse, je crois, en acte 7, verset 20, il est dit qu'il était d'une beauté de Dieu. Intéressant, hein, aussi, comme expression. Et donc, on voit dans toutes ces choses l'apport du visuel, du son, du toucher, du goût, de l'odeur. Autrement dit, dans l'appel de Dieu, avant-hier ou hier matin, je ne sais plus, je vous ai proposé, c'était avant-hier, je vous ai proposé d'utiliser vos cinq sens, hein, qu'on sache vraiment être avec quelqu'un. Il m'est arrivé de prendre la main des gens qui étaient en face de moi. Alors là, ça dépend, hein, c'est pas avec tout le monde. Justement, il faut vraiment mais utiliser vraiment la proximité. Et par exemple, pourquoi pas, moi, dans mon bureau, j'ai mis comment est-ce qu'on appelle ça, c'est pas un pot pourri, mais vous savez, un truc de fleurs, de trucs secs, là. C'est un pot pourri, c'est ça, hein? Voilà. Et donc, savoir voilà, le visuel, le son, le toucher, moi, quand quelqu'un vient me voir... Je dis, est-ce que vous voulez un café, un thé, une tisane, etc. Savoir créer une ambiance dans laquelle on y est, dans laquelle toute notre humanité s'exprime. Amen. Et donc, l'individu est à l'image de Dieu, il est fait pour faire. Et faire, ça couvre l'ensemble de nos caractères, de nos aspirations. Alors ça... C'est où, ça? C'est aussi en Espagne. C'est sur les Ramblas. Et si vous descendez les Ramblas, il y a quantité de choses étonnantes. Hein, il y a la Ramblas des fleurs. La Ramblas, c'est l'avenue qui mène à la mer, comme la Canebière à Marseille. Hein? Et donc, sur la Rambla, il y a la Rambla des fleurs, la Rambla des oiseaux, etc. Et vous avez des gens qui sont des statues vivantes. Hein? Et alors, ils sont là, ils ne bougent pas. Et donc, tout à coup, ils vous font un clin d'œil, ou ils bougent, ou ils font un geste comme ça. Et voilà pour moi quelque chose de fantastique dans l'expression artistique. Je ne dis pas forcément que j'ai envie d'être à leur place, parce qu'ils doivent avoir des crampes, hein, au bout d'un moment. Hein. Mais enfin, c'est quand même très chouette, et c'est très très beau. Très très beau, parce que c'est très varié. Hein, on se dit, mais ils ont une imagination, ces gens-là, fantastique. Et quand on voit en Genèse 6, Dieu vit que l'imagination du cœur de l'homme était mauvaise, alors je crois qu'elle est mauvaise, pourquoi ? Parce qu'elle est capable de tuer. Elle est capable d'accueillir des anges qui s'incarnent pour faire des enfants, etc. Autrement dit, certainement un rapport avec l'occultisme. Hein ? Mais l'imagination du cœur de l'homme, elle est aussi bonne. Hein ? Elle est mauvaise en Genèse 6 parce que c'est pour la méchanceté, c'est pour le mal. Mais Dieu nous a fait une capacité créatrice qui est vraiment qui est belle, qui est, et qu'on a, nous, à mettre en œuvre. Voilà quelques exemples littéraires de créativité. L'acrostiche. L'acrostiche, c'est le fait qu'un texte commence par la même lettre ou alors par un ordre voulu de lettres. Et les psaumes acrostiches, il y en a donc 7 dans les psaumes, il y en a 7 de psaumes, ce sont des psaumes où chaque lettre de l'alphabet hébreu est représentée. Donc, dans les psaumes acrostiches, il y a 22 versets, ou 44, ou 66. Le psaume 119, par exemple, qui est un des psaumes acrostiches, en a, je crois, 178, c'est-à-dire un multiple, 176, un multiple de 22, c'est 22 fois 8. Hein, donc il y a 8 versets par lettre. Et c'est certain que Dieu nous dit, en fait, ce que tu dis, dis-le avec façon. Dis-le avec élégance, dis-le avec, avec un travail, en fait. Hein? La description, la description, dans le Cantique des Cantiques, quand la bien-aimée décrit le bien-aimé, ou le bien-aimé la bien-aimée, il y a une évocation qui est très riche, très belle, très poétique, très douce. Moi, j'ai un peu de mal à faire comme lui. Hein? Mais je crois qu'il faut tendre vers ça. Il faut tendre vers l'élégance, le raffinement, la délicatesse, hein, tout un ensemble de choses. Moi, je suis plutôt dans les grands caps. Hein, je suis, mais bon, voilà, je fais des efforts pour mettre des petites photos, pour, hein, voilà. Les paraboles. Parabole, en grec, ça veut dire littéralement lancer à côté. Baleine, en grec, c'est l'infinitif du verbe lancer, balo. Et para, c'est à côté. Donc, autrement dit, une parabole, c'est d'utiliser un exemple de la nature pour faire comprendre quelque chose. Voilà donc un style littéraire. La répétition. Alors, j'ai mentionné le livre de la Genèse parce que dans la Genèse, il est écrit 10 fois « Ce sont ici les générations de... » Voilà. Et donc, il y a une volonté, en fait, de faire entendre quelque chose. Pourquoi Dieu nous dit-il cela ? Les structures. Alors, par exemple, les refrains, psaumes 42, 43, qui sont des psaumes des fils de Corée. C'est le premier psaume des fils de Corée, enfin, premier et le deuxième. Il y a un refrain qui montre l'âme qui est triste et abattue. Pourquoi es-tu abattu, mon âme, etc. Hein, comme une biche... comme le, hein, voilà, vers les eaux, voilà. Et donc, on a à être attentif à ça. Les structures nous parlent, les refrains nous parlent. Il y a une manière, une façon, une forme artistique de parler par cela. Les nombres, voilà encore quelque chose d'important. Les nombres. La Bible remplit, fourmille de nombres et de valeurs numériques. Pourquoi y a-t-il finalement les mois, hein, les Juifs avaient donc 12 mois de 30 jours. Pourquoi y a-t-il des mois? Pourquoi y a-t-il 12 tribus d'Israël? Pourquoi y a-t-il finalement 40 ans dans le désert, 40 jours pour embaumer Joseph? Pourquoi y a-t-il... 70 ans de transportation à Babylone, pourquoi y a-t-il 70 semaines dans les 70 semaines de Daniel, etc. Les 12 apôtres, c'est 10 fois, hein, en nombre 14, quand Dieu vous dit « vous m'avez éprouvé 10 fois hein. ». Il y a certainement des sens avec le nombre 7 aussi. Dans l'Apocalypse, il y a, je crois, 49 fois le nombre 7. Hein. Dans les livres, dans le Pentateuch, on trouve 49 fois, je me souviens plus exactement quoi, dans l'Exode et dans le livre des Nombres, peut-être le nombre de Dieu, ou le nom de Dieu, ou des expressions, oui, moi je suis l'Éternel, 49 fois. Hein. On se dit, mais il y a une volonté d'insistance, et puis il y a un peu une espèce de, une fresque où tout est calculé, où tout est posé, où Dieu est vraiment un artiste, mais c'est aussi un mathématicien. Autrement dit, la mathématique n'est pas, comment dire, quelque chose de pesant. C'est quelque chose qui sculpte, qui arrange. Voilà. D'autres exemples. Alors, le repas hein, dans les noces, c'est une forme artistique. Dans les noces de Cana, Jean 2. La tenue vestimentaire, Joseph avait une robe plus belle que les autres. Hein, le jardin, Éden veut dire délice. Jardin d'Éden, la qualité, hein, il ne fallait pas porter d'habits en tissu mélangé. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? En Ézéchiel 44-18, le lin ne fait pas transpirer. Bon, donc suivant les régions de la terre où on est, voilà, la tenue des sacrificateurs, ils avaient des tenues, vous rendez compte? Ils avaient 12 pierres précieuses. Hein, sur la poitrine, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. À quoi ça sert tout ça? Eh bien, je dirais que ça sert à agir sur le monde. Hein, par exemple, Colossiens 3,16, l'instruction divine, spirituelle, qui retentit dans les champs. Hein, je vais lire Colossiens 3,16, qui dit « Que la parole du Christ habite en vous richement, en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. » Autrement dit, il n'y a pas à dire « Quand on chante, on s'instruit. Quand on chante des cantiques, on s'instruit. » Mais chanter, c'est plus que dire. Il y a l'instruction, en fait, de lire, mais chanter, c'est important. Et psalmodier, ça veut dire accompagner un chant avec un instrument à cordes. C'est gratter sur la corde, psalmodier. Hein? Donc, voilà, Dieu nous appelle, hein, le guitariste, c'est Cham, le guitariste. Dieu nous appelle à psalmodier, c'est-à-dire, en fait, à nous impliquer... avec notre voix, mais aussi avec notre corps, nos mains, hein, avec des instruments à cordes, pour, en fait, nous instruire dans la parole de Dieu. Psalmodier, c'est finalement, j'ai mis conquérir la beauté, autrement dit, prendre la beauté, non seulement dans les paroles, non seulement dans le chant, non seulement dans l'harmonie, non seulement dans le rythme, mais aussi dans l'accompagnement de l'instrument. Philippiens 2, 29, c'est Paul qui dit aux Philippiens de recevoir Épaphrodite avec toutes sortes de joie. Voilà. Alors, toutes sortes de joie, eh bien, on va lui mettre un petit café italien, si possible, hein, des chocolats, hein, s'il a pas trop mal au foie. On va lui mettre des fleurs, peut-être. On va lui mettre un petit peu de musique de fond. On va lui mettre quelques bonnes odeurs. On va lui mettre de la lumière et des ombres, hein, le clair-obscur. Hein, quelques tableaux de Rembrandt, si on a les moyens. Hein, voilà, donc en fait, accueillir avec toutes sortes de joie. Voilà. Et en fait, on va représenter les choses pour représenter Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, quand je vais mettre un petit tchétchou là sur ma veste, c'est ça. Hein, finalement exprimer quelque chose qui a peut-être un sens historique, un sens de plaisir, un sens symbolique. Mais finalement, on fait des choses pour exprimer la gloire de Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps, bien sûr, ça veut dire ne couchez pas avec une prostituée, mais ça veut dire aller plus loin dans 1 Corinthiens 6. Ça veut dire que finalement, le corps est un lieu d'expression, un lieu artistique de la gloire de Dieu. Donc, on témoigne de Dieu. Et on témoigne de Dieu peut-être justement parce que Dieu, pour un temps, ne veut pas être visible. Tu ne te feras pas d'image taillée. Autrement dit, l'art, c'est le lieu de l'expression divine qui passe par nous, qui passe par nos dix doigts. Concrètement, eh bien, dans la pratique artistique, il y a des richesses, hein, les arts plastiques, les artisanats, l'architecture, la musique, le théâtre, le cinéma, la danse. Et le recours à l'art pour le témoignage chrétien est possible et important. Hein, est-ce qu'on peut illustrer la Bible ? Est-ce qu'on peut représenter la personne du Seigneur ? Avoir recours à l'image pour l'enseignement biblique ? Hein, faire un spectacle à caractère chrétien ? Le mime, la chorégraphie ? Mais alors, bien sûr, il y a des possibilités, il y a des richesses, mais il y a également des limites et des dangers. Et concrètement, ça veut dire que le chrétien dans sa maison, avec l'implantation de la maison, on l'a fait où la façade ? Il faut que la lumière rentre au sud, logiquement. Hein, moi, quand je vois une façade à l'est ou à l'ouest, je suis malheureux. Je me dis, mais c'est quand même un peu dommage de ne pas laisser entrer la lumière dans le séjour. Hein, les volumes, la décoration, l'aspect accueillant, la tenue d'une maison, hein, la recherche d'un équilibre. Mais aussi, enfants, gardez-vous des idoles. Ma maison, ce n'est pas le centre de ma vie. Le centre de ma vie, c'est Dieu. Alors, quand on est un chrétien amateur d'art, qu'on est collectionneur, qu'on est acheteur occasionnel, un jour, quelqu'un m'a dit, en achetant un magnifique objet, c'est quelqu'un qui avait les moyens, hein, on était ensemble, un objet qui ne sert à rien, en fait. Et cette personne l'a payé vraiment très, très cher. C'était l'antiquité, chez un antiquaire. Et après, elle a culpabilisé, elle a dit, oh là là, mais j'ai mis beaucoup d'argent, mais voilà, il faut faire ce qu'on peut faire ou ce qu'on pense devoir faire sans culpabilité. Hein? Mais par contre, où s'arrête le simple intérêt et où commence la passion ? Passion, ça rime un peu avec souffrance. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai asservir par aucune. Alors, les limites, eh bien, le chrétien et la mode. C'est que dans la mode, alors, il y a d'abord le luxe. Quand on voit le coût d'une robe sur mesure, on se dit, mais j'ai peur de la porter, parce que si je fais un accro, il y a quelque chose qui est embêtant. Mais dans les modes aussi, dans les comportements, il y a des tenues qui ne sont pas des tenues vraiment décentes. Hein, dans la mode, il y a aussi cette difficulté. Mais tout cela dépend du lieu géographique, de l'époque, de l'âge, de la condition sociale. Et on a une sobriété. Hein, par exemple, en Afrique, quelqu'un m'a dit, et je ne sais pas si c'est tout à fait exact, hein, mais que concernant la question du voile dans 1 Corinthiens 11, alors, quelqu'un m'a dit, j'espère que ça va vous faire sourire, hein, en fait, qu'on demandait aux femmes de mettre un voile sur la tête, alors qu'en fait, elles avaient les seins nus à l'air. Bon, donc tout est une question de culture, en fait, en Afrique. Hein, parce qu'il fait chaud, et puis on est comme on est normalement, donc tout est relatif, finalement. Le chrétien face au déferlement de l'image, c'est bien. Hein, c'est important, heureusement qu'on a l'image, elle exprime beaucoup de choses. Hein, peut-être surtout pour les hommes, parce que visuel, pour les hommes, peut-être est plus important pour les femmes, quoique, encore une fois, ça dépend des gens. Hein, la bande dessinée, l'illustration, la photographie, hein, le cinéma, la télévision. les jeux vidéo, mais alors là, attention, à la pudeur, à la pornographie, hein, à l'accoutumance. Et donc, attention à ce que l'esprit du monde, finalement, ne gagne pas en nous, de manière à nous rendre insensibles, et même non seulement insensibles à ce qui est mauvais, mais insensibles à ce qui est bon. Là, merci les orthodoxes, hein, c'est Pierre et Paul. Alors, on ne voit pas bien leur visage, mais si vous voulez, j'ai d'autres diapos où on le voit mieux. Hein. Là, c'est Pierre et là, c'est Paul. On conclut. L'art, est-ce que c'est un instrument de rêve ou de réalité? Autrement dit, le souffrant qui vient me voir, quand il va au cinéma, est-ce qu'il rêve? Est-ce qu'il le fait pour rêver? Si oui, il est dans l'échappatoire. L'art ne doit pas être un instrument de rêve, mais de réalité. Mais être dans la beauté de ce que Dieu nous appelle à vivre. L'art, un instrument de réveil, parce qu'il faut qu'on prenne conscience, en fait, de qui est Dieu, de qui nous sommes. Dans la pratique pastorale, Dieu est au centre. L'art est une forme de prise de conscience de qui est Dieu. Ou en tout cas, l'art permet la prise de conscience de qui est Dieu. La place de l'art dans la conception de Dieu. Ce que je note en tout cas, en général, c'est qu'elle est très très faible. C'est que le monde artistique est un monde marginal, qu'on considère comme pervers, dans lequel la représentativité de Dieu est très faible. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui font des expositions de peinture, de sculpture, qui organisent régulièrement des concerts pour se faire connaître, ça un petit peu plus peut-être.
Chez les catholiques.
Hein? Et donc en conclusion, je dirais, quelle est la place de l'art dans ma vie, mais également dans la vie de la personne qui souffre et dans ma méthode pastorale. Autrement dit, le comportementalisme a du bon. Autrement dit, sachons entraîner quelqu'un à faire quelque chose. On ne résout pas les questions d'image de soi en recherchant le regard de Dieu sur nous. Non, le regard de Dieu sur nous, on l'a quand on se met en mouvement et quand on réalise qu'on est dans le plan de Dieu, mais quand on se regarde en mouvement, en train de faire quelque chose de bon, d'intéressant, d'utile, de beau, etc. Autrement dit, je pense qu'une grande part des souffrances provient, bien sûr, du regard des gens sur eux, ils sont mal dans leur peau, mais ils ne font pas assez de choses, où ils font mal les choses.